Le pouvoir de l'influence naturelle. Si dans cet ouvrage, je cherche à faire un tour d'horizon actuel et pratique des principales techniques de manipulation, positives et négatives, il ne faudrait pas négliger ce que l'on peut appeler l'influence naturelle. Comme dans un jeu vidéo, nous avons des points de compétence répartis plus ou moins équitablement. Certains d'entre nous sont de bons sportifs, d'autres ont beaucoup de points d'adaptation, etc. Ces compétences ont une part d'inné, une part d'environnement incluant l'éducation familiale et enfin une part d'expérience personnelle. Pour quasiment l'intégralité des compétences, j'aimerais dire pour toutes, mais à ce jour, aucune étude n'a été faite sur le sujet, nous pouvons agir pour nous former et prendre du galon. L'influence naturelle ne déroge pas à cette règle et peut être entraînée. En développant une influence bienveillante naturelle, vous vous assurez d'être du bon côté de la ligne déontologique, même dans vos réactions réflexes, et vous devenez naturellement plus convaincant dans votre quotidien. Je pense qu'il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que de se faire offrir quelques poissons. Alors voici comment procéder. Donner un retour. C'est un réflexe à acquérir. Comme tous les points que je vais citer ici, il est parfois naturellement présent chez certains d'entre vous. Lorsque l'on reçoit quelque chose de positif, on peut remercier, éprouver de la joie et la montrer. L'étape en plus consiste à réfléchir comment rendre dans le temps ce même sentiment à la personne. Par exemple, si une personne vous souhaite votre anniversaire et que cela vous surprend, parce qu'elle l'avait entendu et retenu au détour d'une conversation par exemple, il peut lui être tout aussi agréable que vous pensiez au sien. Dans ce cas, il vous suffit de vous renseigner ou de lui demander et de le noter dans votre agenda. Autre exemple, un ami vous aide spontanément pour une tâche que vous n'aviez pas envie de faire, alors que vous ne lui avez rien demandé. Notez dans un coin de votre esprit de lui rendre l'appareil spontanément, c'est-à-dire un jour où il ne vous aura rien demandé de particulier. Dans tous les cas, l'idée est de rendre l'émotion positive que l'on vous avait donnée. C'est une manière forte de valoriser vos relations et donc la confiance que l'on vous accorde. Par extension, les personnes au courant de votre attitude positive, même s'ils n'ont pas été au cœur du sujet, vous noteront inconsciemment comme une personne de confiance. Cela marche aussi pour votre relation à un groupe. Il n'est pas rare, par exemple, qu'un artiste produise quelque chose de gratuit afin de remercier sa communauté. Et, cela va sans dire, vous devez agir à chaque fois de manière sincère et sans intérêt. La force de la sympathie. Vous vous dites « Merci Fabien, on sait bien que si on est sympa, c'est plus facile. » La sympathie est pourtant assez mal connue. Être sympa signifie avoir un comportement qui donne envie d'être votre ami. Et cela se travaille en profondeur. C'est à vous de décider d'être souriant, agréable, sympathique. Par exemple, vous sortez d'une réunion où vous étiez agacé contre un collègue et vous partez rejoindre des amis. Sur le trajet, c'est à vous de décider mentalement de changer votre perception du monde en refermant cette réunion mentalement pour redevenir plus positif, plus neutre, afin de ne pas arriver avec un état d'esprit désagréable à votre repas entre amis. Être sympa, c'est afficher deux choses, du sourire sincère et des points communs. C'est un combo imparable. Et pour savoir que l'on a des points communs, il faut discuter ou le démontrer. Est-ce que cela augmente vraiment votre influence naturelle? Oui. Une étude a même prouvé que la réussite d'une négociation pouvait passer de 6 à 30% de chances d'aboutir lorsque les deux parties comprenaient qu'elles avaient des points en commun. La parole dure est tenue. Pas de panique. Il ne s'agit pas de parler durement, mais bien d'avoir une parole solide. C'est l'un des points auxquels je fais le plus attention dans ma vie personnelle et professionnelle. Le but est de ne jamais parler à la légère pour être toujours fiable. Vous avez tout à gagner à ne pas dire oui lorsque vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire quelque chose. Par extension, il faut aussi être vigilant aux engagements que vous pouvez prendre sans que l'on vous ait rien demandé. Si vous ne tenez pas cet engagement, vous générez de la déception chez l'autre. Imaginez que vous êtes avec un de vos amis, que vous parlez d'acheter un nouveau jeu de société et qu'il vous dise « Attends, j'en ai un qui est super, je te l'apporterai, comme ça tu pourras l'essayer. » Mais à chaque fois que vous devez vous voir, il ne l'a pas. Vous lui rappelez de temps en temps, puis vous arrêtez de le faire, car vous avez le sentiment de le harceler, pour quelque chose que vous n'avez même pas demandé au départ. Vous sentez les émotions négatives qui peuvent entourer un simple prêt de jeu de société. Il faut toujours réfléchir à son engagement avant de le formuler. C'est une excellente manière d'épaissir votre fiabilité vis-à-vis des autres, votre réputation et donc votre influence naturelle. La double cohérence. Dans la même lignée que la parole dure, vous devez travailler votre cohérence et stimuler celle des autres. C'est une influence naturelle assez puissante. Commençons par votre cohérence. Vous devez veiller à ce que vos actes et vos paroles soient cohérents dans un maximum de circonstances. Vous ne pouvez par exemple pas prêcher la bienveillance tout en médisant sur les autres. Vous ne pouvez pas louer l'importance de l'entraide sans jamais être disposé à aider les autres. Pour être cohérent, il faut parfois nuancer la verve de ses avis. Être moins radical dans sa pensée en regardant objectivement ce que vous faites vous-même concernant le sujet abordé. La cohérence marche aussi dans le milieu professionnel. Si demain je lançais une émission de cuisine où je décidais de cuisiner en buvant de l'alcool, vous trouveriez ça incohérent avec l'univers que vous connaissez de moi. Et avouez que je perdrais en crédibilité à vos yeux. Pourtant, c'est exactement l'émission qu'a lancée Monsieur Poulpe, comédien et humoriste, il y a quelques années, et tout le monde a trouvé ça génial car c'était cohérent avec ce qu'il dégage, dit et fait depuis toujours. Continuons avec la cohérence des autres. Travailler sur la cohérence des autres, c'est surtout les amener à être impliqués en permanence dans ce qu'ils font, à leur proposer d'être actifs plutôt que passifs. C'est ensuite leur besoin de cohérence qui enclenchera la machine. Un exemple concret. Il y a des années, des médecins se sont demandé comment faire pour éviter les annulations de rendez-vous et pour limiter le nombre de personnes qui ne viennent pas sans prévenir de leur absence. Une idée directement liée aux besoins de cohérence a été mise en place dans plusieurs cabinets. Normalement, les personnes qui voulaient un rendez-vous devaient se déplacer dans ces cabinets. Les secrétaires médicales prenaient alors l'initiative pour proposer une date et un créneau, générer une fiche patient et rentrer la consultation dans le système informatique. Le changement fut le suivant. Les patients se présentaient encore pour prendre rendez-vous et la secrétaire médicale leur donnait une fiche sur laquelle le patient allait choisir la date et l'heure de son rendez-vous, en fonction des disponibilités restantes du médecin, bien entendu. Puis, il remplissait les détails de la fiche de réservation. Résultat, presque 20% d'annulations en moins avec cette méthode. Car les personnes qui avaient une cohérence naturelle déjà développée se sentaient obligées d'être présentes au rendez-vous qu'elles avaient elles-mêmes fixé. En rendant les personnes plus actives, vous stimulez également leur propre cohérence naturelle. L'art du mimétisme. J'appelle le mimétisme un cocktail réunissant le mimétisme au sens propre et la capacité d'adaptation. Vous devez prendre le temps d'appréhender le monde qui vous entoure en vous y adaptant. Le moyen le plus simple étant d'en adopter l'ambiance et les codes. Le plus dur étant de rester fidèle à soi-même et d'être dans sa cohérence personnelle. C'est une question de curseur à régler qui fera que vous passez partout tout en étant vous-même. Cela vaut pour tous les moments, pas nécessairement dans des endroits ou avec des personnes de votre environnement. Exemple. Vous êtes très joyeux, en pleine forme, les batteries gonflées à bloc. Vous avez de l'énergie, peut-être un peu trop. Et vous devez rejoindre des collègues qui sont déjà en réunion depuis quelque temps, disons une heure. En entrant dans la pièce, la première chose à faire est de jauger l'ambiance du groupe pour vous y adapter. En effet, même si vous connaissez très bien vos collègues et le lieu, vous ne savez pas ce qui s'est dit, vous ne connaissez pas l'état actuel du groupe. Partons dans un extrême et imaginons que l'un de vos collègues vient de se confier sur une tragédie dans sa vie personnelle. Vous ne pourrez pas le savoir en entrant dans la pièce, mais vous pourrez vite percevoir une ambiance calme, respectueuse et peut-être un peu pesante. Le mimétisme ne vous oblige pas à entrer dans cet état d'esprit précis, qui serait d'ailleurs étrange puisque vous ne connaissez pas la cause de cette ambiance un peu terne. Mais vous pouvez baisser un peu le volume de votre voix, maîtriser votre énergie et transformer votre bonne humeur débordante en sourire et bienveillance. Régler les curseurs, adopter les codes, savoir s'intégrer sont les clés d'un mimétisme qui augmentera significativement votre influence naturelle. La précision comme ciment final. Inutile d'être un expert lorsque vous dites ou faites quelque chose. La précision, c'est d'être clair dans ses actes et ses propos. Comme je vous l'explique dans la partie à venir sur les mauvaises techniques de manipulation, nous avons tendance à être affirmatifs, à utiliser des astuces de manipulation sans nous en rendre compte. D'ailleurs, nos interlocuteurs ne se voient pas en faire autant et ne perçoivent pas consciemment ce que l'on fait. Paradoxalement, lorsque vous cessez de le faire, les autres le ressentent. Ils ne le traduisent pas forcément comme cela, mais comprennent que l'on peut vous faire confiance, car vous êtes toujours juste dans ce que vous dites et faites. Vous pouvez, par exemple, nuancer vos propos lorsque vous parlez d'un sujet. « Je pense que »,« je crois que », »,« il me semble que » sont souvent bien plus honnêtes qu'un « il est évident que », »,« tout le monde sait que », »,« c'est sûr que ». La nuance n'empêche pas de s'affirmer. Elle vous fait gagner en crédibilité et donc toujours en influence naturelle. Pour conclure cette partie, j'aimerais attirer votre attention sur le travail en profondeur que nécessite la manipulation positive. En développant votre influence naturelle, vous anticipez le moment de manipulation. C'est ce que l'on appelle la persuasion. Ce terme inventé par Robert Cialdini dans son livre éponyme met l'accent sur un instant oublié de la manipulation. L'instant juste avant. Il y a les actes, les mots, mais également le passif que l'on attribue à une personne et qui va établir une saine relation de confiance entre les individus, que ce soit par expérience ou simplement par la réputation. Cet instant juste avant, vous l'optimiserez en devenant naturellement un manipulateur du bon côté de la force.